Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous te remercions déjà pour tes paroles ce matin, que ce soit à travers les échanges, à travers les lectures, les chants. Tu parles toujours au cœur. Tu nous appelles à l'obéissance, parce que la vie chrétienne, comme certaines veulent nous présenter comme un long fleuve tranquille, non, tu nous appelles à te suivre, à t'obéir. Souvent dans ta parole, tu dis « Efforcez-vous ». Seigneur, tu ne nous as pas créés comme des robots, mais des êtres responsables. Tu nous appelles à prendre des décisions cruciales dans nos vies, dans notre vie. Nous avons pris tellement de décisions depuis notre jeunesse. Mais là, il est question de vie ou de mort. Tu nous laisses cette liberté et tu nous demandes « Voulez-vous me suivre ?» Parce que si c'est le cas, tu nous préviens par avance que nous aurons une croix à porter. Dans ta parole aussi, tu dis il y a toujours un reste. Et même tout le peuple hébreu est sorti d'Égypte, il y a seulement quelques-uns qui sont rentrés. Entre les deux, il y a le chemin du désert. Aide-nous, Seigneur, à tenir jusqu'au bout. Il y a un prix à payer dans un monde attirant, séduisant, mais où règne le diable. Merci pour ces paroles ce matin. Et je remets entre tes mains ce message encore une fois, qui apparaît déjà à mon cœur, moi le premier, qu'il me parle, mais qu'il parle à chacun de mes frères et sœurs, pour l'avancement de ton royaume et pour ton Église, que ta volonté se fasse, Seigneur, en ton saint nom. Amen.
Amen.
Nous arrivons maintenant, on avance dans l'Évangile selon Marc. Et j'ai consulté ce que notre frère, mon frère Toby, a fait. Et je suis tombé sur la suite. Et on est dans le chapitre 2, versets 23 à 28. On est à la fin du chapitre 2. Et j'ai demandé ce matin, exceptionnellement, à même Elinès de rester. Parce que je pense qu'on est dans le message de la transmission. Et je pense que ce message s'adresse aux enfants. Et je m'adresse à eux en tant que père. En tant que père, parce que c'est un message souvent, je dirais, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas beaucoup, pourtant c'est un message courant. Moi qui ai grandi dans une religion que vous connaissez, on attendait un jour de Dieu, le vendredi, pour se rassembler. Et c'était un jour de fête. On s'habillait bien, et en général en blanc. On va célébrer cette fête religieuse le vendredi. Et dès le vendredi soir, on attendait le vendredi suivant, et ainsi de suite. Qu'en est-il du monde chrétien? J'ai l'impression que la rencontre hebdomadaire, elle devient une option. À quoi ça sert? Mais non, si je peux, je viens. Mais si je ne peux pas. Mais non, le Seigneur nous a appelés à la liberté. Voyons, si je ne suis pas là, je suis quand même avec vous spirituellement. On trouve toutes les excuses. La nature humaine, elle trouvera toujours les excuses. Alors j'ai dit, à la lumière de la parole de Dieu, quand on est chrétien, qu'est-ce qu'elle nous dit, la parole de Dieu? Eh bien, ce passage sur lequel je suis confronté aujourd'hui, justement, traite ce sujet-là. Je ne l'ai pas choisi, mais c'est la première pensée qui m'est venue en lisant ce passage que je vais lire devant vous. Marc chapitre 2, versets 23 à 28. Il arriva un jour de Shabbat que Jésus... Vous préférez que je dise Shabbat ou Sabbat? Je ne sais pas, qu'est-ce qui vous va le mieux?
Les deux.
Les deux, ok, allez. Sabbat, Shabbat. Moi, ça me va Shabbat. Shabbat, bien. Il arriva un jour de Shabbat que Jésus traversa des champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent, voici pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le Shabbat. Jésus leur répondit, n'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu du temps du souverain sacrificateur Abiathar et mangea les pains de proposition qu'il n'est permis qu'au sacrificateur de manger, et en donna même à ceux qui étaient avec lui. Puis il leur dit, le Shabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du Shabbat. On peut le traiter de plusieurs manières, ce passage. Et le premier passage, je dirais dans le milieu chrétien, on dit, ben oui, c'est normal, Shabbat, en fait, c'est le repos dans le Seigneur. Le message spirituel, je suis d'accord. Nous sommes appelés à un repos en Christ. Quand on reçoit le Seigneur, on reçoit le repos. Je peux l'évoquer de ce côté-là. Mais je peux aussi évoquer un autre sujet, carrément parler du Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire, le Shabbat? Qu'est-ce qu'il veut dire pour les chrétiens? Pertinence du Shabbat pour les chrétiens. Je vais sortir du cadre du judaïsme pour dire, et pour nous, le Shabbat, c'est quoi? Est-ce qu'il faut balayer? Ça y est, parce que le Shabbat, c'est le judaïsme. Maintenant, hop, allez, il n'y a plus de Shabbat. Pour les uns, le Shabbat est quelque chose de lointain qui concernait Israël, le peuple de l'ancienne alliance et la loi de Moïse. Pour les autres, le Shabbat signifiant le repos du salut. Et nous le croyons. C'est déjà réalisé en Christ et s'achèvera pleinement à l'avenir quand Dieu essuiera toute larme de nos yeux. On peut affirmer toutes ces choses-là. Mais pour nous en tant que chrétiens, il y a un message pour nous quand même, si Dieu parle de Shabbat. Quel est le Shabbat chrétien? Alors, je vais d'abord vous présenter le Shabbat depuis le début des temps. Ce qui est écrit dans l'Écriture, bien entendu, dans la Bible. Genèse, chapitre 2, versets 1 à 3. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes les armées. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Sur ce passage résume le récit des six jours de la création, d'accord? Et nous voyons au verset 2 et 3, Dieu relate un fait. Il s'est reposé au septième jour, d'accord? Il serait au septième jour de toutes les œuvres qu'il avait accomplies ou qu'il avait faites. D'où le Shabbat. Le septième jour se reposa et c'est là vient le Shabbat. Or, le mot Shabbat n'apparaît pas ici. Pas encore. Il est apparenté au verbe se reposer. La première fois que ce mot est utilisé, la première mention de Shabbat se trouve dans Exode chapitre 16, verset 23. Et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le Shabbat consacré à l'Éternel. C'est la première fois qu'il est question de Shabbat. Ce passage concerne le ramassage de la manne au désert. La première mention, comme je viens de vous le lire, qui se trouve dans Exode chapitre 16, 23, donne un ordre au peuple de Dieu. La manne est recueillie pendant 6 jours, mais le ramassage est interdit le jour du Shabbat. Ce texte anticipe donc la loi sur le Shabbat donnée en Exode 20. C'est-à-dire par là que le Shabbat a été ordonné avant la loi. Le Shabbat n'est pas la conséquence de la loi. Il existait avant la loi. La loi commence à apparaître dans le livre de l'Exode à partir du chapitre 20. Donc le Shabbat précède l'octroi de la loi et remonte à la création. On peut aussi dire que l'origine de l'institution du Shabbat, je vais plus loin, remonte non pas après la chute, mais avant la chute d'Adam. Dans la Genèse, le Créateur est dépeint comme celui qui s'est arrêté ou s'est reposé après 6 jours de travail. L'idée que Dieu se repose me pose question. Il est dit que Dieu a cessé son travail de 6 jours pour se reposer. Mais Dieu ne se fatigue pas, sinon ce n'est pas Dieu. Alors, en cherchant dans la traduction, eh bien, la traduction, en fait, veut dire, en fait, il a cessé son travail. Une autre traduction nous dit, Dieu s'est arrêté pour reprendre son souffle. Oui, on est loin de se reposer. Le repos de Dieu devient synonyme de vie. Même si dans ces versets de la Genèse, il n'y a pas de commandement relatif à la manière dont l'homme doit observer le Shabbat, il n'y a pas de doute. Ce passage manifeste un souci pédagogique avant même la chute de l'homme pour dire à l'homme, consacre un jour, un mois dans la semaine. L'homme, certes créé à l'image de Dieu, mais aussi fait de souffle et de poussière, il est invité, voire appelé, à imiter son Créateur. Si Dieu se reposait le septième jour, que fais-je moi? De même que Dieu a travaillé six jours et s'est reposé le septième, l'homme doit pour son propre bien-être faire de même. Épuisé par son travail, il a besoin de reprendre son souffle. Voilà, C'est donc l'exemple du repos de Dieu qui sert de repère, de référence, avant même qu'un ordre ne soit donné à l'homme relatif au Shabbat. Si l'homme, pour imiter Dieu, est appelé à cesser ses activités de tous les jours, il a aussi comme vocation de faire quelque chose en ce jour. Pas seulement se reposer, car Dieu a réalisé deux projets. Il a béni le Shabbat et l'a sanctifié. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre. Du fait que Dieu a accompli ces choses, on comprend que ce repos n'est pas une simple cessation d'activité et passer son temps devant la télé ou devant les jeux. Pas du tout, puisque Dieu a fait deux choses. Il l'a béni et il l'a sanctifié et nous appelle à la même chose. Donc ce jour-là doit être consacré au Seigneur. Ce jour-là doit être consacré à l'adoration, à la prière, au partage et à la communion. En effet, Dieu est toujours actif, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. On le sait. Il soutient et maintient continuellement l'univers et tout ce qu'il contient. Jésus évoque ce fait aux critiques à l'égard de ses guérisons le jour de Shabbat. Mon Père travaille jusqu'à présent. Et moi aussi, je travaille. Même pendant le Shabbat, Dieu est là. Lui, il œuvre, mais il m'appelle au repos. Les guérisons, le travail de Jésus, le jour du Shabbat, indiquent le véritable sens du Shabbat. La restauration de la vie dans la providence divine. Par ce repos béni et sanctifié, Dieu fait abonder prospérité et renouvellement de la vie. Observer le Shabbat signifie au moins que l'homme cesse toute activité normale qui constitue le travail des six jours précédents pour entrer dans un repos qui l'attend. Dans un monde où il est question de travail, argent, Dieu nous appelle des fois au repos. L'être a besoin de se ressourcer physiquement et spirituellement. Les deux vont bien évidemment ensemble. Le maître du Shabbat a dit, le Shabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat. C'est-à-dire le repos nous attend pour y rentrer. L'ordre de sanctifier le Shabbat va de pair avec l'ordre de l'observer. Dieu nous demande d'observer le Shabbat et de se reposer. Si Dieu a créé et racheté son peuple, il l'a fait pour que ce peuple puisse l'adorer et jouir de ses bienfaits. Pour que cette grâce se réalise, Dieu a non seulement donné un jour particulier de la semaine, mais aussi un lieu spécial pour réunir et rencontrer son peuple. Oui, mes frères et sœurs, s'il faut se réunir, c'est écrit. Lévitique, chapitre 19, verset 30. En s'adressant à son peuple, Vous observerez mes Shabbats et vous respecterez mon sanctuaire. Il s'agit de réserver ce jour pour l'assemblée cultuelle. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le Shabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le Shabbat de l'Éternel, dans toutes vos demeures. Et dans le passage, Ésaïe, chapitre 20, 56, versets 6 et 7, tous ceux qui gardent le Shabbat, il est dit aussi, ils se réjouiront dans ma maison de prière. Cesser de travailler pour se rassembler était la manière dont Israël a été appelé à sanctifier le repos, le Shabbat. Alors vous allez me dire, mes frères et sœurs, mais entendez, vous parler du peuple hébreu là. C'est ancien temps. Alors, qu'en est-il du Shabbat depuis la naissance de l'Église, alors? Selon le Nouveau Testament, il y a un Shabbat pour le croyant. Le repos hebdomadaire de l'Ancien Testament préfigurait un repos quotidien pour le croyant en Christ. L'auteur de la lettre aux Hébreux, en s'appuyant sur Genèse 2, chapitre 2, met en rapport le repos créationnel et rédempteur et le repos en Jésus-Christ grâce à son œuvre de rédemption accomplie sur la croix. Il conclut qu'il demeure encore aujourd'hui un repos sabbatique. Et dans Hébreux chapitre 4, versets 9 à 10, il y a donc un repos de Shabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Le message est clair. Entrer dans le repos du salut implique que l'homme cesse son travail pour son salut. Il est bien question des œuvres pour être sauvé, certes. L'homme n'est pas sauvé par les œuvres, c'est par ses propres œuvres. Il n'y a qu'une œuvre qui peut sauver, celle du Christ. C'est en ce sens aussi qu'on peut méditer la parole du Christ. Le Shabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat. J'ai beau m'efforcer pour entrer dans le repos, je n'y arriverai pas. Le repos m'attend. C'est l'œuvre que le Seigneur a accomplie et nous invite à y rentrer. Quant à ce repos, l'auteur de cette lettre nous met en garde de ne pas rester incrédule et indifférent. Il nous exhorte à y entrer par quoi ? Par l'obéissance de la foi. Pour être sauvé, il est question d'obéissance. Hébreux, chapitre 4, verset 11. Efforçons-nous. N'oublions pas, efforçons-nous. On ne veut les balayer, ça. Efforçons-nous. Donc, d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Il est bien question d'effort. Et dans le milieu chrétien, on veut enlever les efforts. Tout est liberté. Non, il est question de prise de décision personnelle en nous efforçant. Sommes-nous entrés, mes frères et sœurs, dans ce repos? Avons-nous décidé de rentrer dans ces efforts? Ou continuons à subir les aléas de ce monde? On comprend mieux le constat de l'apôtre Paul au sujet de toutes les fêtes sabbatiques d'Israël. Le Shabbat est un symbole visible d'un message qui est profond. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger, du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, du Shabbat. Tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Le Shabbat renferme un message. C'est très profond. La raison pour laquelle le Dieu créateur a donné l'exemple du repos sabbatique à son peuple est la raison pour laquelle le Dieu rédempteur a donné l'ordre d'observer le Shabbat. Était de préfigurer, c'est l'image du repos, du salut en Jésus-Christ. Repos où nous ne pouvons entrer que par l'obéissance. Avec l'avènement de la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes, le Shabbat hebdomadaire, certes, on le sait, s'est réalisé en Jésus-Christ. C'est un message spirituel pour nous. Ce Shabbat préfigurait le repos du salut en la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Avec l'accomplissement de l'œuvre rédemptrice, à savoir la mort et la résurrection du Christ, le jour du repos est passé du 7e au 1er jour de la semaine. C'est le jour de la résurrection. La résurrection du Christ, le premier jour de la semaine, œuvre qui est la garantie du repos éternel, confirme et valide l'achèvement de son travail précédent. Ce changement de jour a été préfiguré par le repos de la rédemption. Le peuple de Dieu a été délivré de la servitude au premier jour de la semaine, tandis que le jour d'avant, un septième, l'agneau pascal a été immolé. Ce repas préfigurait la réalité qui suivait, la rédemption. Ainsi, le premier jour de la semaine pascal et le septième jour ont été consacrés à l'assemblée cultuelle, au rassemblement du peuple de Dieu. Bien que les signes aient changé, la Sainte Cène remplace le repas de la Pâque. En tant que chrétien, la Sainte Cène que nous prenons remplace le repas de la Pâque, d'où l'importance de cette cène que nous prenons, qu'il ne faut pas prendre à la légère. La signification demeure la rédemption en Christ. De surcroît, si les jours pour observer le repos sabbatique ont changé, la signification reste intacte. L'entrée dans le repos du Dieu créateur et rédempteur par la foi en Christ. Voilà la place du Shabbat depuis la naissance de l'Église primitive. Et aujourd'hui, que dirons-nous? S'il y a un repos quotidien, qu'en est-il pour le repos hebdomadaire? Autrement dit, devons-nous faire notre travail en six jours et réserver le septième pour adorer Dieu, créateur et rédempteur? Loin de généraliser, bien évidemment, mais je donne cette grande idée que la parole de Dieu veut nous transmettre. Bien entendu, il faut la prendre pas cas par cas, mais comme on dit, il y a un esprit qui doit être partagé par tous les frères et sœurs. Rattaché à la création, le Shabbat, en chapitre 31, est qualifié de signe perpétuel, d'une alliance éternelle. C'est-à-dire, cette rencontre que je vais avec le Seigneur, c'est jusqu'à la fin du monde, et ça continuera, parce que par la suite, il n'y a plus de dimanche, ça sera éternellement avec le Seigneur. L'ordonnance sabbatique remonte à l'origine, à la création du monde, à l'exemple du Créateur lui-même. Le jour du repos de Dieu n'a pas de limite dans le temps. L'exemple du repos sabbatique de Dieu est survenu avant la désobéissance de l'homme. Donc le fait de se rencontrer le dimanche, ce n'était pas la conséquence de la chute pour nous ramener. C'était déjà avant même que l'homme chute. Dieu a déjà établi une rencontre avec nous. Si les origines de l'institution du Shabbat remontent jusqu'à l'exemple du Créateur lui-même, et même avant la chute, comment imaginer qu'après la faute, l'homme puisse s'en passer? La revendication de Jésus en Matthieu 5, 17, « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais pour accomplir la loi », signifie d'abord qu'il a parfaitement accompli les exigences de la loi. Cela veut dire aussi que Jésus, en accomplissant la loi, montre son ampleur, son sens profond. Les paroles du Christ ne révoquent pas celles d'autrefois. Au contraire, elles les étoffent et les enrichissent. Ainsi, le Shabbat hebdomadaire est embelli, mais pas aboli, par l'œuvre du Christ. Cette réalité, l'Église primitive l'a comprise depuis des siècles, au point qu'à la Réforme, ils ont établi une confession, peut-être vous connaissez, la confession réformée selon la tradition calviniste, et c'est la confession de foi de Westminster qui déclare, je vous lis ce qu'il a déclaré, on est au XVIIe siècle, plus exactement en 1646. Dieu a spécialement désigné par un commandement positif, moral et perpétuel de sa parole, liant tous les hommes de tous les temps, un jour sur sept comme Shabbat à lui consacrer. Depuis le commencement du monde jusqu'à la résurrection du Christ, Ce jour fut le dernier de la semaine, à partir de la résurrection du Christ, et pour être continué jusqu'à la fin du monde, comme le Shabbat chrétien. Il est devenu le premier jour de la semaine, appelé dans l'Écriture le jour du Seigneur. Ce jour permet le rassemblement du peuple de Dieu pour célébrer ses œuvres et jouir de ses bienfaits. Sanctifier le premier jour de la semaine, et je n'invente rien, était la pratique de l'Église primitive. Vous savez très bien, quand je raconte quelque chose, il faut revenir à la parole de Dieu. Ben, lisons ensemble. Acte 20, verset 7. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Mes frères et sœurs, le premier jour de la semaine chez les Hébreux, c'est le dimanche, le premier jour. L'Église se réunissait, rompait le pain, priait ensemble. Donc, ce n'est pas une invention après humaine. C'est bien quelque chose qui est dans la pratique de la vie chrétienne. C'est aussi l'exhortation de l'auteur de la lettre aux Hébreux. Que chacun de vous, le premier jour... Non, il y a un autre passage, 1 Corinthiens, pour vous dire en fait le premier jour. L'apôtre Paul s'adresse à l'église de Corinthe, il leur écrit. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Ils se rencontraient bien le premier jour de la semaine, et c'était la rencontre fraternelle pour la prière, pour l'adoration, mais en même temps, ils décidaient pour aider les frères et sœurs qui étaient dans le besoin. C'est aussi l'exhortation de l'auteur de la lettre aux Hébreux. N'abandonnons pas notre assemblée. C'est une recommandation de l'apôtre Paul, et c'est des choses qu'il faut le dire. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. En préparant ce message, mes frères et sœurs, ma culture est revenue. Pour moi, ça se fait que moi, avec ma religion avant, j'attendais le vendredi. Et c'était quelque chose de privilégié, tout le monde l'attend. Et comment aujourd'hui, le dimanche devient une option. Pourquoi ? Non, mes frères et sœurs, le rassemblement entre frères et sœurs dans la communion fraternelle est un appel divin depuis la création du monde, confirmé par la loi et confirmé par Jésus lui-même, y compris par la parole de Dieu, l'apôtre Paul nous le dit, mais vous pouvez lire les actes des apôtres et les épîtres. Le Seigneur n'a pas simplement commandé aux hommes de se reposer chaque septième jour pour notre bien physique, mais pour que délivrés de toute autre affaire, nous appliquions plus franchement nos âmes et nos esprits à reconnaître, louer et adorer d'une manière collective le Créateur du monde. Si Dieu a béni et sanctifié ce jour, c'est pour que ce jour soit une source de bénédiction et de sanctification pour l'homme. Mes frères et sœurs, il y a des gens qui souffrent, qui se cachent, qui au risque de leur vie pour se retrouver ce jour-là. Et nous, nous risquons rien. Et pourtant, on en fait une option. Bénir, c'est rendre la vie fructueuse, féconde, productive. Ce repos comprend donc l'activité qui permet l'épanouissement vrai et véritable. Et dans l'Église primitive, quand l'Église décide d'exclure un frère ou une sœur de l'Église, ils savaient que c'était vital pour eux ce jour-là. Et quand on les excluait, pour eux c'était une condamnation à mort. Aujourd'hui, il faut d'abord réaliser que ce jour, Dieu nous appelle. Est-ce que nous sommes capables de mettre nos priorités de côté et dire « Je vais rencontrer mes frères et sœurs à l'Église » comme l'apôtre Paul le dit, je m'adresse à mes propres enfants qui grandissent. Est-ce qu'il viendra le jour, vous dites le dimanche matin, non, je ne veux pas aller jouer au foot, je ne veux pas aller faire quoi que ce soit, parce que je dois rejoindre mes frères et sœurs. C'est pour ça que je voulais qu'ils viennent, pour qu'ils entendent ce message. Ce repos comprend donc l'activité qui permet l'épanouissement vrai et véritable de la vie. C'est un prix à payer. Nous ne sommes pas des robots. Et c'est là que Dieu nous appelle. Prenez une décision. Efforcez-vous d'entrer dans le repos. Sinon, on trouvera toutes les excuses pour justifier logiquement notre désobéissance à la parole de Dieu. Et je dis cela à moi le premier, puisqu'on s'est remis en question, moi, nous les premiers, jusqu'à demander nos excuses, parce que nous n'avons pas à fermer l'église le mois d'août. Et on le sait maintenant, on ne fermera plus l'église le mois d'août. L'église sera toujours ouverte. Et nous en avons parlé. Ce repos comprend l'activité qui libère l'homme de l'emprise des jours ouvrables. Sanctifier, c'est dégager de la semaine ce jour qui est consacré à ce qui édifie. Et ça coûte. Tel ce jour, quand on lit la parole de Dieu, est consacré à l'écoute de la parole de Dieu, à la prédication, à la prière, à l'adoration, à la fraction du pain et surtout à la communion fraternelle, comme nous pouvons le lire dans Acte 2, 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Créé à son image, et je termine, créé à son image et vivifié par son souffle, nous avons reçu aussi de Dieu le pouvoir de bénir et de sanctifier. Les psalmistes bénissent Dieu pour ses œuvres de création et de rédemption. Ce jour est d'abord un jour où on bénit Dieu. Oui, mes frères et sœurs, quand on est là, on peut se bénir entre nous, au nom du Seigneur. Bénir Dieu, c'est le reconnaître comme source de la vie et du salut. C'est le louer. Car il gratifie ses créatures de ses dons. C'est l'adorer comme créateur et rédempteur. On peut bénir nos frères et sœurs, c'est-à-dire prier Dieu de leur accorder la vie épanouie et le salut, en leur disant de vivre voir à travers le regard, à travers juste la proximité. Reconnaître la grâce divine qui est l'œuvre en nos frères et sœurs. Bénir un frère et une sœur en Christ, c'est entre autres intercéder, exhorter, encourager, alerter. Tout ceci se fait surtout, mais pas que, surtout le jour du Seigneur. Un regard suffit. Nous n'avons pas besoin de parler. Regardez, c'est bénir. Et regardez, pourrais-je le faire à distance? Alors vous allez me dire, il y a la visio. Comme le Seigneur a fait, comme le Seigneur a fait, il nous demande de faire. Sanctifions ce jour, mes frères et sœurs. Sanctifions-le. Mettons-le de côté. C'est un des premiers efforts à faire, en plus de la décision de prendre sur soi. Le jour qu'on mettra ce jour-là en priorité, on commencera le chemin avec le Seigneur dans le dépouillement. Bénissons le Seigneur pour ses œuvres et ses bienfaits, et bénissons aussi nos frères et sœurs pour son œuvre en eux. Je tenais vraiment à partager ce message avec vous, parce que c'est la première fois qu'il m'a alerté qu'en lisant ce passage. J'étais sur le sens spirituel, ça veut dire le Shabbat. J'étais arrêté sur qu'en est-il réellement en pratique. Souvent, on aime la théorie, le Seigneur nous emmène à la pratique. Je vous remets ça devant le discernement du Seigneur, que chacun prenne ce que peut prendre selon sa mesure. L'objectif, c'est le questionnement. Je ne détiens aucune vérité, la vérité, c'est Dieu lui-même. J'espère en lui, je vous ai transmis quelque chose qui peut nous interpeller. Tenons jusqu'au bout, ça c'est un prix à payer. Que le Seigneur nous aide tous. Amen.